Bible. Alors, j'ai demandé aux jeunes qui ont les fiches devant eux de d'écrire trois choses pour lesquelles ils ont envie. C'est-à-dire quelque chose, ne réfléchissez pas trop, hein, les jeunes, mais trois choses qui vous viennent tout de suite à l'esprit. Soit que vous voulez faire, soit que vous voulez être. Parce que souvent, dans le monde... À l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, nous utilisons cette expression « soif », pas simplement d'une façon physique, on a besoin d'eau, mais aussi de parler des envies que nous avons. Et donc je cherchais sur Internet, juste sur la rubrique des actualités, donc c'est des informations, et j'ai cherché ce mot « soif ». Voici les phrases que j'ai trouvées. « Soif d'apprendre ». Soif d'amour, soif de vivre, soif de connaissance, soif de victoire. Celui qui est revenu le plus souvent, c'était soif de revanche, soif de vengeance, soif de nouveauté, la soif du monde. J'ai aussi lu que les accros aux séries télé vont être ravis, ils pourront bientôt épancher leur soif de nouveaux épisodes directement depuis leur smartphone. Voilà, la liste pourrait être bien plus longue, hein, des choses pour lesquelles nous avons soif, nous avons un désir. Mais dans ce sermon que nous appelons le sermon sur la montagne, qui comprend les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, Jésus, en fait, réduit chaque ambition ou chaque désir à deux domaines différents. Et je vous invite à trouver Matthieu 6 et le verset 31. D'ailleurs, je l'ai ici sur l'écran. Mais c'est un peu comme ce que nous avons vu avec le psaume 1. Il n'y a que deux groupes. Et ici, nous voyons qu'il n'y a que... De groupe, Matthieu 6, 31, Jésus dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, c'est-à-dire ils ont soif de ces choses. Votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin, mais vous, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, c'est-à-dire les choses pour lesquelles les païens se donnent depuis matin jusqu'au soir, eh bien, ces choses vous seront données par-dessus. Il y a vraiment deux recherches dans la vie. Les gens qui se lèvent le matin, ils ont soif. Et ici, ce ne sont pas des choses mauvaises, hein. Il faut se vêtir, il faut manger, il faut trouver un abri. C'est pour cela, ce matin, dimanche matin, beaucoup de gens vont se donner encore à ça, au travail, ou encore à épancher ses soifs. Mais vous cherchez autre chose. Ayez soif du royaume et de la justice. Notez ce mot justice de Dieu. Et nous avons dit que le serment, le thème vraiment de tout ce serment, de ces trois chapitre, c'est la vie du royaume des cieux. Allez, jeunes, vous avez un trou là. La vie du royaume des cieux nous fait penser au ciel dans un monde déchu. C'est des gens qui sont en fait des citoyens du ciel, mais qui vivent encore sur la terre. Et Jésus nous donne ce commandement dans ce monde déchu, que nous devons chercher premièrement le royaume et quoi ? Et la justice. Le royaume et la justice. Nous devons chercher la justice. Et d'un côté, vous avez les païens qui recherchent toutes ces choses, comme nous avons vu au verset 32, mais vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. De Dieu. Donc, il y a d'un côté, vous voyez, c'est de côté les préoccupations temporelles contrastées aux préoccupations éternelles. Mais je veux que vous notiez que Jésus ne crée que deux catégories. Il y a 3, 4, 5 catégories. Il y a vraiment deux catégories. Toutes ces choses et le royaume et la justice de Dieu. Alors maintenant, il y a une autre façon d'exprimer ce même contraste entre deux ambitions différentes. Et c'est au début du chapitre 6. Regardez, là, au début de ce chapitre 6, où Jésus réduit chaque ambition, chaque désir à deux royaumes différents. Et là, nous sommes dans le domaine des activités religieuses. Regardez le verset 1, Matthieu 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, soit vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous dis, en vérité, ils ont leur récompense. Voilà, en ce qui concerne donner l'aumône. Regardez verset 5. Lorsque vous priez, maintenant on parle de la prière, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. C'est-à-dire, eux, ils prient, c'est comme un théâtre, en fait, un jeu pour être vu et apprécié des hommes. Et il dit à la fin du verset 5, je vous le dis en vérité, ils ont quoi? Ils ont leur récompense, comme il a dit concernant les aumônes. Regardez maintenant le verset 16. Lorsque vous jeûnez, donc on passe de l'aumône à la prière et maintenant au jeûne, il dit, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont quoi? Ils ont leur récompense. Alors, selon Jésus, vous voyez, il y a une motivation derrière chaque acte. Toujours une motivation. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous rend humains. S'il n'y a pas de motivation, c'est un robot, c'est une machine. Une machine, j'ai un lave-linge, et je pousse un bouton, et il lave mon linge. Il ne le fait pas par amour, il ne le fait pas par haine non plus, c'est une machine, il le fait. Comme ça. Et donc derrière, un humain, il a quand même une récompense dans sa tête. Derrière tout ce qu'il fait. C'est quelque chose que nous recherchons dans ce que nous faisons. Alors, est-ce que Jésus dit ici que c'est mauvais de chercher une récompense dans l'aumône, dans la prière, dans le jeûne, etc., dans tout ce que nous faisons? Oui ou non? Est-ce que c'est mauvais de chercher une récompense pour soi? Non. Il ne dit pas que c'est mauvais. Et nous ne sommes, comme je viens de dire, pas des robots. Imaginons que je rentre chez moi, bon, ma femme n'est pas là, mais et que j'embrasse ma femme et je lui dis, je veux que tu saches que je t'embrasse par un désintéressement complet. Je refuse d'éprouver le moindre plaisir personnel. Je fais uniquement pour toi et pour toi seul. Par abnégation, par détachement, par renoncement à moi-même. Je pense que ça va vraiment me toucher. Je pense pas. Ça lui plaît quand je trouve moi-même du plaisir en elle. Et Jésus ne dit pas prier d'une façon désintéressée. Il ne dit pas donner de l'argent par abnégation complète, sans ambition de récompense. Il n'est pas gêné par désintéressement complet, pas du tout. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas chercher de récompense, mais il dit ici que vous obtiendrez la récompense que vous cherchez en fait. Vous voyez? Il dit, vous obtiendrez la récompense que vous cherchez. Regardez, revenons sur ce que Jésus dit de la prière au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Voici la récompense qu'ils recherchent. Eux, ils le font pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont quoi? ils ont été vus des hommes. Ils l'ont fait pour être vus des hommes, mais ils ont été vus des hommes. Voilà leur récompense. Ils ont eu tout ce qu'ils ont cherché, tout ce qu'ils recherchaient. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils obtiennent. Il ne dit pas ici, ils reçoivent ce qu'ils ne veulent pas. Il dit en fait, ils reçoivent tout ce qu'ils veulent. Ils reçoivent leur récompense en entier. Mais verset 6, regardez le verset 6. On n'a pas encore lu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, quoi? Il te le rendra. Ça, c'est une récompense. Si vous cherchez une récompense du Père, vous aurez aussi une récompense venant du Père. Et donc, le problème n'est pas la poursuite de récompense. Le problème est la poursuite de mauvaises récompenses. Certains prient pour être récompensés par les hommes, et c'est exactement ce qu'ils reçoivent. Leur prière est exaucée, si vous voulez. Ils ont leur requête. Leur requête, c'est d'être vus des hommes, et la prière est exaucée. Et d'autres prient pour être récompensés par Dieu, et c'est exactement ce qu'ils obtiennent. L'ambition dans la vie chrétienne n'est pas mauvaise. On vient de lire en ce matin qu'on nommait « Vous voulez être comme un arbre ?» C'est une bonne chose d'avoir ce désir, d'être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui résiste et qui demeure au jour de jugement. Et dans une citation assez célèbre, C.S. Lewis a dit ceci, « Si nous considérons les promesses bienfaisantes que nous trouvons dans l'Évangile, il semblerait que notre Seigneur trouve nos désirs trop faibles, pas suffisamment forts. » Nous, on a l'impression, bon, je désire trop de choses. Peut-être je désire des choses trop petites, trop faibles. Nous sommes des créatures de demi-mesure, hébétées par la moisson, le sexe et l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Nous sommes, il n'y a plus cette illustration, un peu comme un homme qui se plaît à jouer dans la mare de boue d'un bidonville parce qu'il ne sait pas qu'on lui offre des vacances à la mer. Donc il est satisfait parce qu'il ne connaît rien d'autre. Il dit, je reste ici, je suis content. Il ne connaît pas ce qui lui est offert. Il dit, nous sommes trop rapidement satisfaits. Et puis, un prédicateur qui vient de plus loin, du 18e siècle, il a dit, selon l'excellence de l'objet que nous embrassons dans nos cœurs, ainsi le degré de notre bonheur. Comprenez? Si c'est la boisson alcoolique, par exemple, ben vous allez trouver tout le bonheur que cette boisson peut vous offrir. Les saints ont choisi de se reposer en Dieu. Mais il dit, laissez un pécheur avoir ce qu'il considère son trésor, et même dans les temps de trouble, il sera satisfait. Ça ne dure pas longtemps, mais il sera satisfait. Donne à un homme avide de l'argent, il dira comme Ésaü, il a dit à son frère, j'ai assez. Si un homme ambitieux reçoit un poste important, ben il est à l'aise. Si une personne sensuelle peut se baigner dans les ruisseaux de plaisir charnel, il est dans son élément. Permettez à l'homme pieux de jouir de son Dieu en qui il met toute sa joie et son bonheur, il est satisfait, car il a tout. Selon le degré de notre plaisir en Dieu, ainsi le degré de notre bonheur. Ceux qui réjouissent de Dieu parfaitement dans le ciel ne connaissent même pas le mal. Alors, qu'est-ce qui vous satisfait? Moi, je dis, j'ai besoin de ça et pas plus. Une belle famille, une femme, un mari, des enfants sages, un peu plus d'argent, c'est tout ce qu'il vous faut pour vous rendre heureux. Pour beaucoup, c'est oui. Et donc, dans ce contexte, avec toutes ces choses en tête, regardez Matthieu, maintenant 5 et verset 6. Où Jésus parle, et quelle bénédiction d'avoir devant nous les mots même de Jésus. Et Jésus nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Voilà, il parle de ceux qui ont faim, ceux qui ont un désir. Ils sont assoiffés et affamés de la justice, car ces personnes seront rassasiées. Notez la relation directe entre le fait d'avoir faim et soif et le fait d'être satisfait. Ceux qui n'ont pas faim et soif de ces choses ne seront jamais satisfaits par ces choses. Le message est toujours le même. Vous obtenez ce que vous voulez. Vous obtenez ce que vous recevez, ce que vous cherchez, ce après quoi vous soupirez. Alors, vous passez votre vie à la recherche du temporel, du terrestre, du mondain. C'est tout ce que vous allez obtenir. La santé spirituelle, en fait, vient grâce à la faim et à la soif. Et c'est une façon qu'on peut se poser la question, suis-je en Christ? Est-ce que j'ai une faim? Est-ce que j'ai une soif pour la justice? Et c'est ça la tristesse de monde autour de nous. C'est pas que nos voisins n'ont pas accès à la vérité. C'est pas que nos proches n'ont pas accès aux paroles de Jésus-Christ. C'est pas ça du tout. Ils n'ont pas soif. Ils n'ont simplement pas faim. Ils vont se lever, ils vont passer leur journée à rechercher, à étancher leur foi. Ils n'ont pas de soif pour Dieu. C'est une façon aussi de prier que Dieu leur donne une soif et une faim pour la justice. Mais c'est le problème avec la plupart de personnes, peut-être aussi nous-mêmes, aujourd'hui, ce matin, c'est que nous pensons que nous sommes à peu près là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, même en tant que chrétien, je suis quand même, bon, je ne suis pas parfait bien sûr, mais je suis quand même assez satisfait de ma spiritualité. Je suis assez satisfait de là où je suis. Et si on vous dit, mais donnez-moi trois choses qui devraient changer dans votre vie, ce serait probablement des choses qui sont en dehors de nous. C'est-à-dire ma situation, les personnes autour de moi, si je pouvais changer toi et lui et elle, là, je serai satisfait, mais il n'y a pas cette soif et cette faim pour quelque chose en nous, la justice. Nous sommes trop satisfaits de ce que nous sommes. Et quand un défi est mis devant nous, il n'y a tout simplement pas d'appétit. Alors, qui parmi les enfants, je pense à ça parce qu'on en a fait pas mal récemment chez nous, mais on a dû boire un médicament qui était dilué dans l'eau. Vous savez, vous avez dû faire ça, peut-être un Doliprane ou quelque chose. Est-ce que vous regardez ça et ça vous donne envie de tout boire? Mais non, c'est pas comme du coca, hein. Et on peut dire, bon, il y a maman qui dit, mais c'est bon pour ta santé, c'est nécessaire pour t'aider à te guérir, mais ça ne le rend pas facile, n'est-ce pas? C'est pas facile. Parce que il n'y a pas une soif en nous. En fait, il y a souvent la gorge qui résiste à cela. Mais Jésus dit ici, si tu veux vraiment être heureux, il faut avoir soif de la justice. Ça commence par ta soif pour ces choses. Alors, qu'est-ce que c'est donc la justice ? J'ai dit qu'il faut avoir faim et soif de la justice. Et il y a quatre façons de comprendre la justice dans la Bible. Et peut-être vous pouvez les noter pour en méditer plus tard. Quand on parle de la justice dans la Bible, on parle parfois de la justice objective qui est imputée, c'est-à-dire qui nous est donnée. Le don de la justice. C'est la justice de Jésus-Christ qui nous donne. Qui est un chrétien? Un chrétien est quelqu'un qui est justifié, ça veut dire déclaré juste. On sait tous ce que c'est, même un enfant, c'est ce que c'est de se justifier. Est-ce que tu as fait ça? Bon, tu sais, bon, on se justifie, c'est-à-dire on dit, moi je suis plutôt juste, c'est pas ma faute. Mais un chrétien, c'est quelqu'un que Dieu justifie. Ou il y a des péchés, on dit, voilà, elle a fait ceci ou il a fait cela, et Dieu dit, ah non. Il est juste. Et quand Dieu nous justifie, il ne peut pas mentir, parce que sinon on va dire, mais Dieu ne peut pas mentir, il est vrai. Donc sur la base de la justice de Jésus-Christ. Et Romains 10 parle de ceux qui ne connaissent pas la justice et qui cherchent à établir leur propre justice. Ce sont des gens qui vont devant Dieu et disent, c'est comme un enfant devant ses parents. Mais Seigneur, tu sais, tu vois, j'ai fait de mon mieux et j'ai pas fait cela et je suis plutôt bon et moi je suis plutôt gentil et c'est vrai que bon, je dérape parfois, mais je suis quand même quelqu'un de sérieux. Vous voyez ça? On essaye d'établir devant Dieu notre propre justice. Et Jésus dit que si vous êtes comme ça, si vous approchez Dieu et vous dites, mais moi je fais ceci, je fais cela, je suis plutôt juste, vous ne connaissez pas la justice de Dieu et même pire que cela, vous n'êtes même pas soumis à la justice de Dieu. Vous essayez de convaincre Dieu que vous êtes juste et en cela vous rendez Dieu injuste. Mais il dit que Jésus, en 2 Corinthiens 5, 21, qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. C'est-à-dire Jésus est devenu péché et Dieu l'a châtié afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que vous avez une soif d'être en Jésus, justice de Dieu? Et Philippiens 3 nous dit que Paul, son désir était d'être trouvé en Jésus, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Là, c'est mon ardent désir, c'est ma soif, c'est ma faim. Donc il y a cette justice objective, et puis il y a la justice subjective. On pourrait appeler la sainteté vécue ou la pratique de la justice. Et vraiment, c'est de cela que Jésus parle le plus souvent dans ce serment. Il parle de justice 7 fois dans ce serment. Et toutes ces justices sont liées, mais l'emphase est vraiment sur une vie juste devant Dieu. Et en Romains 6, verset 13, la Bible nous dit qu'il ne faut pas livrer nos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais on doit livrer nos membres à Dieu comme des instruments de quoi? De justice, c'est ce mot. C'est-à-dire nos mains, nos bouches peuvent être des instruments de justice. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la main? Plein de choses, on peut taper, on peut aider. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la bouche? On peut écraser, on peut élever. Avons-nous ce désir de rendre à Dieu tous nos membres, même nos membres les plus intimes, pour qu'ils soient des instruments de justice et pas d'injustice? Éphésiens 6, 14 dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Et j'aime bien ce verset en Philippiens 1, et c'est une prière, et Paul dit « Je prie pour que vous soyez remplis de fruits de justice, dans vos vies, soyez remplis de fruits, pas de haine ou de colère, mais quand vous regardez, vous êtes comme un jardin, mais plein de fruits, beaux fruits qui sont les fruits de justice, qui donnent gloire et louange à Dieu. C'est le cœur d'un chrétien ici. Il ne veut pas seulement habiller au ciel. Bon, Seigneur, non, on ne voit pas en enfer, envoie-moi au ciel, s'il te plaît. Mais sauve-moi, mais à la fin de ma vie, pour que je puisse vivre ma vie pour moi-même avant. Non, c'est quelqu'un qui vraiment a soif de plaire à Dieu. Et sans cela, il n'y a pas de satisfaction. Il n'y a pas d'assurance que nous sommes même chrétiens si nous n'avons aucun désir de plaire à Dieu. C'est une question de se poser. Est-ce que j'ai un désir? Est-ce que j'ai une soif de plaire à Dieu? Ou que Dieu puisse me plaire. Une des choses les plus rassurantes pour un croyant est de voir ses nouveaux désirs qu'il n'avait jamais eu auparavant, de voir que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles, et voici, il a des désirs qu'il n'a jamais connus dans son être auparavant. 1 Jean 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à quoi? Notre amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles si nous avons ce désir. Alors, avons-nous une soif pour plaire à Dieu? Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est mon café et mon croissant. C'est de faire la volonté de Dieu. Et puis, nous pouvons penser aussi à la justice comme la norme. La norme ou la source de la justice. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la norme? Qu'est-ce que c'est la source de la justice? 1 Corinthiens 1, verset 30 nous dit que c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui est par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice. Jésus a été fait pour nous justice. Et Apocalypse 19, 11, il dit, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, c'est par le Jésus, et juge et combat avec justice. Donc, quelqu'un, c'est sûr, quelqu'un qui vraiment cherche la justice, il ne la trouvera qu'en Jésus seul. Vraiment, même si vous avez dans le monde une soif pour la justice, c'est-à-dire pour la paix, pour l'amour, est-ce que vous allez trouver ça aux Nations Unies? Est-ce que vous allez trouver ça dans votre quartier? Est-ce que vous allez vraiment trouver une paix profonde et l'amour complet dans votre famille? Non, si vous cherchez la justice, n'importe quelle sorte de justice, l'épitome de cette justice est en Jésus-Christ. Et notez dans vos Bibles la relation entre la justice et Christ. Regardez le verset 10, Matthieu 5, 10. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour quoi? Pour la justice. Verset 10, hein? Pour la justice. Et gardez cela en tête et regardez le verset qui suit. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Une phrase il dit pour la justice, la phrase juste après, il dit pour moi. Jésus lui-même crée un lien entre la justice et lui-même. Il est la justice. Cela parle certainement d'une soif pour Christ lui-même. Et le psaume 37 qui a été cité, que Jésus cite au verset 5, donc Jésus avait ce psaume aussi en tête, il dit, verset 4, fais de l'Éternel tes quoi? Tes délices. Et il donnera ce que ton cœur désire. Alors voici comment on interprète souvent ce verset. Je veux vraiment, c'est ce que je veux une nouvelle voiture. C'est ce que mon cœur désire. Donc, si je peux faire de l'Éternel mes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Parce que si je fais de l'Éternel mes délices, quel est mon désir? C'est plus la voiture, c'est surtout l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel ne se donne pas aux touristes. Hein, il y a des gens qui arrivent, ils arrivent en France, nous avons eu récemment, ils visitent la Tour Eiffel, c'est très bien. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent. Ils repartent chez eux. Il y a des gens qui approchent l'Église, il y a des gens qui approchent Dieu pour ça. Tiens, je vais voir ce qu'il a à offrir. Il est pas mal, Dieu. Et ils abordent un peu la Bible comme un touriste. Je veux dire, je vais voir, et puis ils me mettent à côté. Jésus dit non. Si vous voulez vraiment connaître l'Éternel, il faut faire de lui tes délices, et puis il se donnera à ceux qui font de lui leurs désirs, les désirs de leur cœur. Proverbe 10, 24 nous dit, ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes, leur est accordé. Si vous voulez vraiment le Seigneur, vous l'aurez. Personne ne peut dire, je veux le Seigneur. Je veux le salut, mais je ne l'ai pas. Non, si vous désirez vraiment, vous l'aurez. C'est la promesse. Puis nous pouvons ajouter à cela, parce que c'est lié, la parole de justice. Et c'est une phrase, c'est une citation exacte de Hébreux 5, 13, qui parle de la parole de justice. C'est une façon de parler de la Bible, c'est la parole de justice. Si nous avons une soif pour la justice, nous aurons une soif pour la parole de justice. En 2 Timothée 3, 16 et 17, il dit que toute écriture est quoi? Inspirée de Dieu, et c'est utile. C'est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La Bible, si on veut être instruit dans la justice, il y a quelque chose, il y a un outil qui est utile à cela, et c'est la parole de Dieu qui a été inspirée par Dieu lui-même. Ceux qui ont faim et soif sont ceux qui ouvrent leur Bible pour trouver les paroles de justice. Donc toutes ces choses sont intimement liées. Le don de la justice, la pratique de la justice, la norme de la justice, la parole de la justice. Mais surtout, ne pensez pas que Dieu vous demande d'aller et d'établir votre propre justice devant Dieu. Cela va vous laisser sur votre faim. Ça va vous laisser sur votre soif, comme est l'expression. Si vous voulez avoir la soif étanchée, il faut chercher la justice qui vient d'en haut et être prêt à abandonner mes excuses, mes justifications. Parce que chaque fois que je fais des excuses, chaque fois que je me justifie, j'établis ma propre justice. C'est ça la justification de soi. J'établis ma propre justice. Non, il faut avoir la faim et la soif de sa justice. Alors, comment est votre vie? Est-elle vide? À un moment, Dieu dit à son peuple, il a dit, vous avez commis deux torts. Et les premiers torts, vous m'avez abandonné. La source d'eau vide. Et deuxième tort, vous vous êtes allé et vous avez creusé d'autres puits. Mais des puits, il dit qu'ils ne donnent pas de l'eau. C'est deux torts souvent que nous faisons aussi à l'Éternel. Nous abandonnons ce qui vraiment peut nous donner la satisfaction et nous passons nos vies à creuser des citernes et des puits qui en fait ne donnent que de l'eau pourrie. Que de l'eau pourrie. C'est un peu comme l'image de l'eau pure. Je parle ça avec mes enfants, on parle de la sexualité. La sexualité, quand elle est pure, c'est comme de l'eau pure. Elle est bonne. Mais est-ce que vous voulez voir l'eau qui sort des gouttières et qui coule dans l'eau, qui coule dans la rue, pardon? Vous allez sortir dans la rue et vous allez ramasser de l'eau du milieu de la rue, là où il y a de la boue, là où les gens sont marchés, les voitures sont roulées. Et est-ce que cette eau va vraiment vous rafraîchir? Cette eau peut vous tuer, en fait. L'eau peut porter des microbes. Et Dieu nous dit, cherchez donc l'eau pure qui est en Dieu seul. Ne vous demandez pas, est-ce que j'ai prié une prière de salut? Demandez plutôt, est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai soif? Cette soif. Et que Dieu, dans sa grâce, crée en nous. Nous pouvons prier, Seigneur, crée en moi une soif pour que je puisse connaître après la satisfaction. Prions le Seigneur. Dieu, nous te remercions du fait que tu travailles dans ce sens et que tous ceux qui sont en Christ ce matin ont connu déjà cette soif et c'est cette soif qui nous a attirés vers toi, la source d'eau vive. Et donc, nous te demandons de créer en nous tous encore plus de soif pour que nous revenions et nous revenions fois après fois à la source. Empêche-nous d'être satisfaits par des choses mondaines qui n'ont pas de valeur. Et donne-nous et à nos enfants, à nos proches, une soif pour la justice de Dieu. Et fais, Seigneur, que nous puissions connaître cette satisfaction éternelle que toi seul tu peux donner. Nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'être venu, c'est démontre une soif de votre part. Alors, bravez tout le bruit qu'il y a derrière. Et je vous demande de vous lever et nous allons chanter ensemble.